C'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Sommaire de ce magazine, belle réussite pour le congrès des maires du 04 assisteront l'interview du président des maires, Daniel Spagnou, dans ce magazine. Les forums pour l'emploi se multiplient et s'avèrent utiles. Reportage à Manosque lors du dernier rendez-vous. À Digne, à l'invitation de la fédération du BTP 04, des collégiens de SECPA ont visité le chantier du Seuil du Pont. Le reportage d'Odile Frison pour Force 7. L'école de la deuxième chance de Marseille a organisé une journée portes ouvertes. Le reportage de Colline Jutet dans un instant. Mathieu Marc a rendu visite à une fabricante d'emballés, un emballage alimentaire réutilisable et écolo. Le premier roman de René Frény a été sublimé sur scène grâce à un oratorio Les Chemins Noirs composé par Richard Galliano. Nous entendrons les deux complices à la fin de ce magazine. Jean-Baptiste Lemoine, accueilli au congrès des maires du 04.
Le congrès des maires des Alpes de Haute-Provence s'est déroulé jeudi 14 octobre au complexe des Mares de Sisteron, avec en prime la visite surprise de Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État, délégué notamment au tourisme. Accompagné des parlementaires et de nombreux élus, le ministre a délivré une information cruciale pour nos montagnes. Les stations de ski ouvriront en décembre, si les conditions sanitaires le permettent, bien sûr. Il s'est également voulu rassurant sur la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Nouvelle taxe et ses contraintes redoutées par les intercommunalités rurales, entre autres. Enfin, et même si un autre temps d'échange est prévu en novembre avec la préfète, les nouveaux maires ont pu aborder divers sujets de façon amicale et attentive. Daniel Spagnou, maire de Sisteron et président de l'association des maires du 04, revient sur ce congrès et la présence de Jean-Baptiste Lemoine au micro de Chris Alessandri.
Daniel Spagnou, le salon du congrès des maires des Alpes de Haute-Provence s'est réuni il y a peu de temps. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme conclusion après cette rencontre ?
Bah écoutez, ça a été une réussite par le nombre de participants, puisque avec le pass, on a pu compter le nombre d'élus qui sont venus pendant la journée. Donc on a dépassé les 450, donc 150 de plus que le dernier congrès qui avait eu lieu il y a 2 ans. Un record aussi d'exposants, puisqu'il y avait 62 exposants contre une cinquantaine il y a 2 ans. Une ambiance chaleureuse, vous savez, quand il est 18h et qu'il y a encore de nombreux élus qui ne veulent pas partir, ça montre bien que tout s'est bien passé. Une école hôtelière formidable qui a toute la journée a servi les uns et les autres, nous a également servi un excellent repas à midi. Voilà, je crois que ça a été vraiment une très très belle journée. Puis cerise sur le gâteau, un ministre qui n'était pas entendu du tout, qui est venu porter la parole du gouvernement. Voilà, alors tout ça fait que je reçois de nombreux messages de maires qui se sont dit ravis de cette belle journée.
À ce propos donc, Daniel Spagnou, réaction de Jean-Baptiste Lemoine, quelles ont été les relations, les entretiens que vous avez eus avec lui? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de concret au final avec cette rencontre avec le secrétaire d'État?
Bon, on s'attendait pas à des annonces formidables parce que en plus ça s'est décidé à 24 heures. Donc il est arrivé un peu précipitamment, ça a un peu modifié d'ailleurs le déroulement de la journée, puisque en fait le congrès des maires s'est fait aussi pour écouter à la fin du congrès madame la préfète, et tous les maires attendaient ce moment, donc je vais être certainement obligé de de le renouveler ce moment dans le courant du mois de novembre. En tous les cas, Madame la préfète est d'accord. Mais le ministre a répondu à quelques questions, notamment le problème de la GEMAPI. Vous savez que maintenant, on a malheureusement, les communautés de communes doivent gérer les cours d'eau. Et avec le réchauffement climatique et toutes les catastrophes qu'on voit de partout, ça devient très préoccupant, ça va coûter très cher. On n'a pas les moyens de le faire. C'est-à-dire l'État ne nous a pas transféré les moyens, comme d'habitude. On nous a transféré plutôt de gros travaux à faire un petit peu de partout. Alors la GEMAPI, c'est ce qui triste en ce moment les collectivités. Et là, il nous a dit justement que le gouvernement en avait pris acte et qu'il était en train d'envisager de revoir la loi et de faire jouer la solidarité entre les territoires, c'est-à-dire entre les grandes villes et les zones rurales et de montagne, puisque c'est nous qui fournissons l'eau pour les grandes villes. Voilà, alors ça, c'était le sujet un peu important. Il y a eu aussi le sujet sur les services publics, le maintien des services publics. Et là aussi, il nous a dit que le gouvernement allait encore aider un peu plus les maisons d'accueil au public qui ont été labellisées et qui sont peut-être une réponse justement dans tous les territoires au manque de services publics, parce qu'on voit bien que de partout où on a ouvert les maisons d'accueil au public, elles ont un succès formidable, qu'il y a des permanences qui s'organisent et que ça répond vraiment à un besoin réel. Si on veut que des personnes viennent s'installer dans nos territoires, il faut en même temps qu'il y ait un minimum de services publics. Voilà, donc il y a eu des réponses. Il y a eu surtout le fait que M. Jean Castex, le Premier ministre, nous ait envoyé, donc parce que c'est comme ça que ça s'est passé, un ministre du Tourisme. On est dans un département qui est très touristique. Il a annoncé aussi ce jour-là, et ça a fait plaisir, bien sûr, à tous les maires qui sont concernés par les stations de ski, que les stations de ski ouvriraient bien à partir de début décembre, donc à moins qu'une crise nouvelle terrible sanitaire, mais pour le moment, en tous les cas, les stations de ski seront ouvertes. Tignes a déjà ouvert, avec le pass sanitaire, bien sûr. Voilà. Mais je crois que Jean-Baptiste Lemoyne est quelqu'un de très sympa. Moi, ça m'a fait plaisir de le revoir, parce que quand j'étais député, je le voyais tous les jours. Bon, et des liens d'amitié s'étaient noués entre nous, donc ça a été une journée très agréable.
Daniel Espagnol, vous êtes le président des maires du 04, l'association des maires donc des Alpes de Haute-Provence. Ces nouveaux maires que vous connaissez, comment vous les avez sentis lors de cette réunion? Ont-ils été réactifs? Quelle attitude ont-ils eu?
Ah oui, alors moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que tous les nouveaux maires étaient là. La plupart, je crois qu'il n'a manqué que 3 ou 4, après ce qu'on m'a dit. Donc, ils sont venus et on voyait que ceux-ci, ils ont été très réactifs. En plus, le salon leur a beaucoup plu. Ils ont pris des contacts parce qu'il y avait quand même, cette année, la préfecture avec plusieurs services qui étaient présents. Il y avait le conseil départemental qui était présent. On les avait jamais vus non plus. Et c'est les stands qui ont le mieux marché parce que les maires en ont profité pour aller poser des questions sur divers sujets. Vous savez, c'est pas facile d'être maire depuis 2 ans. Parce que quand vous êtes nommé maire et que vous tombez dans une pandémie où vous êtes obligé de rester à la mairie tout seul, que vous n'avez plus de personnel, que vous êtes obligé de faire front à tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans une commune tous les jours, eh bien, quand on a de la bouteille comme moi, c'est facile. Mais quand on arrive et qu'on est au courant de rien, je vous assure qu'ils ont eu beaucoup de mérite. Et l'association des maires était là aussi pour les aider pour tous les jours. Et je sais si on l'a fait. Et là, ils sont venus dire merci. Et ça, je dois dire que tous ces messages que je reçois me vont droit au cœur, parce que il est encore arrivé de ce matin, le maire a dit merci. Voilà, et bien rien que ce mot, pour moi, il est magique, parce qu'on s'est donné beaucoup de mal avec la secrétaire de l'association, Laurence Angelvin, pour réussir ce congrès, avec également donc l'agence que nous avions engagée, qui a fait un travail remarquable. Donc, des fois, on organise des manifestations comme ça, puis on n'a pas le succès escompté. Alors on se pose des questions, tandis que là on a eu le succès, on a des remerciements, que demander de plus?
Les forums pour l'emploi sont-ils utiles ou pas?
La question est légitime face à la multiplication des initiatives sur le territoire. Qu'ils soient généralistes ou spécifiques ciblés sur des secteurs, les forums pour l'emploi restent des outils importants pour les entreprises comme pour les chômeurs. À la baguette, les services de Pôle emploi au croisement des besoins des entreprises et des disponibilités des demandeurs d'emploi, mais aussi pourvoyeurs d'informations sur les aides à l'embauche ou les formations par exemple. Après une crise sanitaire et des confinements aux conséquences négatives sur l'emploi, la reprise semble s'amorcer et la confiance est de mise chez les pouvoirs publics. Dernièrement, Manosque accueillait un de ces forums où recruteurs et demandeurs sont en contact direct. Ville et agglomération aux côtés de l'État dans un même objectif, servir les entreprises qui recrutent et les chômeurs qui veulent travailler. Richard Spinoza est le directeur territorial de Pôle emploi dans les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Richard Spinoza, vous êtes directeur territorial Pôle emploi 04 et 05. Le forum de l'emploi à Manosque se déroule.
Oui, c'est donc aujourd'hui le forum de recrutement qui se déroule à Manosque, hein, qui concerne toutes les entreprises du bassin de Manosque et pour lequel donc, nous proposons plus d'une centaine d'offres d'emploi aux demandeurs d'emploi qui aujourd'hui sont en recherche d'un poste.
Alors très exactement, c'est 135 offres d'emploi. Ça veut dire que si vous réussissez votre journée, il y aura 135 demandeurs d'emploi en moins sur le territoire.
C'est l'objectif. Voilà, il faut effectivement, sur une période qui est tendu sur les recrutements, où on a des niveaux de recrutement qui sont records, qu'on n'a jamais eu durant les 20 dernières années, et sur un bassin d'emploi qui est extrêmement dynamique, hein, qui est porté par les plans gouvernementaux comme le plan France Relance ou bien Territoire d'Industrie. C'est vrai que les besoins en recrutement sont massifs. Et notre objectif, c'est d'essayer ce matin au maximum de positionner en face des besoins des entreprises, des demandeurs d'emploi qui correspondent à leurs exigences en termes de compétences.
Alors justement, il y a des entreprises qui sont en souffrance et qui n'arrivent pas à recruter. Vous pouvez les aider ?
Oui, on a tout un arsenal d'outils pour aider les entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté de recrutement. C'est vrai, il ne faut pas le nier parce que c'est le cas et c'est le quotidien de certaines entreprises. Il y a des métiers et des secteurs d'activité qui sont aujourd'hui très en tension. Si on peut penser à l'hôtellerie-restauration, mais sur notre territoire, on a aussi les métiers dans le secteur de l'industrie qui sont aujourd'hui en difficulté de recrutement. Parmi l'arsenal qu'on va proposer, il y a les mesures classiques d'adaptation au poste, comme les actions de formation préalable au recrutement ou les préparations opérationnelles à l'emploi. On fait un travail aussi, nous, Pôle emploi, où on s'est organisé en filières, en expertise d'avenir, avec 12 filières d'expertise d'avenir qui correspondent aux secteurs d'activité sur lesquels il y a des potentiels de recrutement les plus importants et des potentiels de développement dans le futur les plus importants. Et sur ces secteurs-là, on a un porteur de projet régional et on décline vraiment une articulation jusqu'aux agences locales de Pôle emploi. L'idée étant d'être capable de mieux cerner les besoins de ces entreprises, d'être plus réactif et d'apporter des réponses, soit territoriales, soit régionales, plus en lien avec les besoins des entreprises.
Du côté des demandeurs d'emploi, il y a un suivi individuel qui est effectué.
Oui, il y a un suivi individuel qui est effectué. Alors, on est sur une logique de personnalisation de la relation de service avec nos usagers demandeurs d'emploi. Ça signifie qu'on va rendre l'accompagnement plus intensif en fonction du niveau d'autonomie du demandeur d'emploi. C'est-à-dire que si le demandeur d'emploi dispose des compétences, de l'expérience et de l'autonomie pour faire ses recherches d'emploi en autonomie, justement, on va plutôt suivre sa recherche d'emploi, mais on ne va pas forcément être intensif, très renforcé dans l'accompagnement qu'on va proposer. Par contre, quand on a quelqu'un qui est en difficulté, qui a du mal à faire ses démarches, là, on va avoir un accompagnement qui va être intensif, voire très intensif.
Les effets des aides de l'État ont vraiment eu un impact important dans le monde des entreprises, avec notamment le plan de relance, vous en parliez tout à l'heure, mais ça va s'arrêter. Est-ce que vous craignez ce moment ?
Alors, d'abord, je pense qu'on peut dire, moi d'un point de vue technique de Pôle emploi, ce que je constate, c'est que la reprise, l'objectif qui était d'avoir une reprise la plus forte possible, ça s'est avéré. On a eu une reprise au mois de mai et de juin avec une augmentation des volumes de recrutement sans précédent et notre territoire particulièrement a été très dynamique sur les recrutements. Donc cette stratégie a été plutôt correcte. Les échanges qu'on a eus, notamment j'ai écouté des communications de la Banque de France et la direction des finances publiques, laissent plutôt entendre que la reprise va durer et qu'on n'aura pas l'effet tsunami craint au début de la crise avec beaucoup de cessations d'activité d'entreprise. Donc non, on est plutôt optimiste sur la suite. Le challenge le plus important qu'on prend vraiment à bras le corps avec les entreprises, c'est celui du recrutement.
« VTP 04 des collégiens dinois en visite sur un chantier.
Chaque année au mois d'octobre, les coulisses du bâtiment permettent aux jeunes de découvrir les métiers du BTP. C'est dans ce cadre qu'une classe de SECPA, enseignement adapté, du collège Pierre Gassendi, s'est rendue sur le chantier du seuil du pont. Président de la fédération du BTP 04, Julien Rey est heureux de l'intérêt que les jeunes manifestent lors de ces visites. C'est ce qu'il explique au micro d'Odile Frison, puis nous entendrons deux collégiens dignois.
Julien Rey, président de la fédération du BTP 04. Aujourd'hui, c'est une journée de découverte pour plusieurs jeunes de Digne.
Oui, donc c'est les coulisses du bâtiment. C'est une manifestation qu'on fait tous les ans dans le cadre de la découverte des chantiers pour montrer aux jeunes ce que c'est les chantiers, quels sont les métiers d'aujourd'hui dans le bâtiment. Et donc, dans toute la France, il y a 200 chantiers qui sont ouverts pour pouvoir présenter nos métiers aux jeunes collégiens et peut-être de leur donner des idées pour la suite.
C'est chaque année ?
C'est tous les ans au mois d'octobre, donc on ouvre les chantiers pour les présenter. Et donc il faut que les chantiers soient au bon moment pour qu'il y ait un intérêt et qu'on puisse bien expliquer nos métiers et susciter peut-être des vocations chez nos jeunes.
Alors aujourd'hui, on se trouve aux abords de la Bléone. Qu'est-ce qui se passe ?
Donc là, c'est un chantier qui va durer une bonne année. Et c'est le confortement des piles du pont. C'est un pont qui a de mémoire 130 ans. Et donc, il faut effectuer des révisions sur les piles. Et donc, c'est des travaux de confortement des piles pour maintenir le pont dans son état actuel.
Est-ce que vous avez remarqué au niveau de ces journées des vocations justement ?
Non, mais déjà on est toujours agréablement surpris de l'intérêt que suscitent ces visites. Les jeunes posent beaucoup de questions, s'intéressent vraiment à nos métiers. Et puis en fait c'est simplement qu'ils voient de leurs propres yeux et qu'ils se fassent eux-mêmes une idée de ce que sont nos métiers plutôt que de rester sur des idées reçues en termes de pénibilité ou de choses qu'on peut avoir sur le métier du bâtiment. Donc le mieux c'est qu'ils viennent voir et que voilà. Mais de manière générale, en général, peu importe les âges, ils montrent beaucoup d'intérêt, ils posent des questions pertinentes et réellement ils s'intéressent à ce qui se passe, quoi.
Parce qu'en fait, il y a énormément de possibilités d'évolution, même de carrière. Un conducteur d'engin peut très bien se diriger vers autre chose dans le bâtiment.
Ah ben, il y a tout type de profil, de l'ouvrier à l'ingénieur, et puis effectivement, c'est des métiers qui sont évolutifs en fonction de l'investissement des personnes. C'est presque sans limite, quoi. Donc oui, je suis pas étonné que les métiers suscitent de l'intérêt. En tout cas, nous aujourd'hui, comme dans beaucoup d'autres métiers, il y a des soucis de recrutement. Donc il est important qu'on maintienne ces manifestations pour présenter nos métiers et continuer de susciter des vocations et de l'intérêt.
Il y a des formes d'apprentissage, bien sûr, après, avec le campus de Digne.
Oui, alors avec le campus de Digne sur certains métiers ou après sur d'autres secteurs en fonction des métiers. Mais effectivement, le campus de Digne a encore pas mal de sections bâtiments, que ce soit la section maçonnerie, section plomberie, section électricité qui sont encore présentes. Mais après, sur d'autres métiers, il y a des CFA dans toute la région qui peuvent accueillir les apprentis. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont demandeurs de former des jeunes.
On peut dire qu'on recrute dans le bâtiment ?
Ah ben, particulièrement en ce moment, effectivement, particulièrement en ce moment. Mais de manière générale, le gros avantage du bâtiment, c'est qu'il y a un maillage au niveau du territoire qui est très bien fait, des entreprises de bâtiment. Il y en a dans toutes les communes de France. Et ça permet aux jeunes qui ont envie de rester chez eux, de trouver des boulots et de rester sur leur région, quoi.
Je m'appelle Idriss, j'ai 12 ans et je suis en 4e au collège Gassendi.
Tu viens de visiter donc le chantier avec le BTP. Est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui ?
Oui, qu'ils font des choses pour pas que l'environnement il s'écroule ou qu'il y ait des espèces protégées qui soient abattues. On a beaucoup de minerais sous nos pieds.
Est-ce que tu as découvert plusieurs types de métiers dans le bâtiment ?
J'en connaissais déjà, mais il y en a de nouveaux que je viens d'apprendre et c'est très intéressant.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a comme choix ?
Par exemple, être bétonnier, par exemple, ou d'autres que j'ai oublié le nom. Donc ça me fait réfléchir pour mon avenir. Moi, je pense qu'en fait, en vérité, j'avais des projets pour mon avenir, mais comme j'ai découvert des métiers par rapport à ce milieu, je pense que maintenant, vu que j'ai découvert à peu près, parce qu'avant, je ne voulais pas, parce que j'allais me dire que ça va être dur et tout. Là, vu que j'ai découvert un peu ce qu'ils faisaient et le mal qu'ils se donnaient pour tout le monde, pour tous ceux qui sont à Digne, je me dis qu'en fait, je vais être dans ce milieu-là pour avoir des bâtiments, pour pouvoir aider des personnes, les hôpitaux, tout ça. Et comme ça, je pourrais aider beaucoup de monde parce que c'est ce que je cherche au fond. Donc voilà.
Bonjour, j'ai 13 ans. Et qu'est-ce que tu as découvert, toi, aujourd'hui, lors de cette visite avec le bâtiment?
Ben, comme il a dit, Idriss, en fait, pour l'environnement. Et je pense que ça va être joli pour la fin 2022.
Est-ce que les métiers comme conductrice de chantier, de camion, est-ce que ça t'a éclairé sur toutes les possibilités de travail du bâtiment?
Après, je connaissais déjà un peu le milieu par rapport à mon père et tout. Mais oui, ça m'a un peu ouvert les yeux quand même.
Alors j'ai entendu qu'il a beaucoup insisté sur les différents métiers possibles et notamment de femmes qui peuvent être aussi ingénieurs. Est-ce que ça t'intéresse?
Après, perso, c'est pas ce que je ferai comme métier plus tard parce que voilà. Mais oui, ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a intéressé que la femme, l'homme n'est pas supérieur à la femme, que c'est ex aequo.
Et diriger des hommes, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser?
Pas vraiment, vraiment.
L'école d'une vraie deuxième chance.
À Marseille, l'école de la deuxième chance, E2C, permet aux jeunes sans qualification et éloignés de l'emploi de s'insérer dans la vie professionnelle. Un large éventail de formations, individualisées et rémunérées, est proposé. Les élèves sont accompagnés dans leur parcours et peuvent intégrer l'école tout au long de l'année de manière souple. Le 13 octobre, le site de Saint-Louis a ouvert ses portes au public. Colline Juté a pu rencontrer la directrice, Sonia Sissionne, et le président de l'école, Louis Alossio, ainsi qu'une jeune fille en cours de parcours et un ancien élève, aujourd'hui diplômé.
Je suis Sonia Sissionne et je suis directrice générale de l'école de la deuxième chance de Marseille.
Et comment vous pouvez décrire cette école ?
Alors, ça porte le nom d'école, mais c'est pas une école, en fait. On est vraiment un lieu où on arrive quand on veut, c'est-à-dire que quand on a envie de s'engager dans un processus de formation, on peut venir, c'est ouvert toute l'année, et il y a au moins 2 rentrées par mois, on vient vraiment quand on veut, et on en ressort quand on est prêt. C'est-à-dire qu'on est là pour travailler sur les fondamentaux, travailler sur des stages, sur les prérequis professionnels, et une fois qu'on est prêt, on ressort avec une formation qualifiante ou un contrat de travail.
Je m'appelle Louardi Elias, j'ai 22 ans, et j'ai intégré l'école il y a un an.
L'école de la deuxième chance, et dans ce cadre-là, vous avez créé un nouveau projet professionnel.
Exactement. Moi, j'avais un projet déjà depuis 15 ans, c'est-à-dire de devenir agent de sécurité. Mais j'avais du mal à le mettre en œuvre. Et justement, l'école de la deuxième chance m'a permis de donner le petit coup de pouce qui a fait décoller l'avion, quoi.
Et comment vous avez eu connaissance de cette école-là?
Alors justement, je la connaissais pas du tout. C'est par le biais de la mission locale. Et moi, au début, j'étais pas trop chaud, quoi. Quand on m'a dit le mot école, je pensais à l'école comme à l'ancienne, vous savez, au lycée, avec des horaires, des heures de colle. Et finalement, j'ai pris la décision de m'y rendre et de m'y intéresser. Je suis parti à la journée porte ouverte comme il y a aujourd'hui. Et j'ai découvert qu'en fait, c'était une toute autre école où les professeurs, ils avaient qu'un but, c'était votre réussite, qui vous accompagnait vers la réussite et qu'il y avait un suivi. Grâce à l'école de la deuxième chance, j'ai réussi à devenir agent de sécurité et SIAF. Et là, dans 2 mois, j'ai passé la formation pour devenir garde du corps. C'est mon rêve depuis tout petit, quoi.
Oui, je m'appelle Louis Alossio, donc je suis président de l'école de la deuxième chance.
Et alors, qu'est-ce qui se passe ici dans cette école de la deuxième chance? Quelle formation vous proposez aux élèves?
Ici, en fait, on s'intéresse à une population très précise, les jeunes de 16 à 25 ans, qui sont sortis du système scolaire et qui n'ont aucune qualification, qui sont un petit peu perdus, abandonnés pour certains. Et donc c'est eux qui nous intéressent. On redonne un intérêt pour un projet, on bâtit avec eux un projet personnel, on leur donne les ingrédients qu'il faut pour un petit peu s'insérer, donc aussi bien des remises à niveau des savoirs fondamentaux, mais remises à niveau aussi des comportements fondamentaux, comment se tenir, les savoir-être. On les branche sur des perspectives de métier ou d'apprentissage ou de remise dans le circuit même de l'éducation. On les met en entreprise pour qu'ils puissent expérimenter ce qu'on leur apprend à l'école et on leur apporte des possibilités d'emploi, d'insertion réelle pour en tout cas une réussite qui est aujourd'hui mesurée à 60% des jeunes qui transitent chez nous et qui ont un emploi ou une formation en apprentissage ou une remise dans le circuit de la formation qualifiante.
Et vous considérez du coup qu'ici, c'est un peu à l'avant-garde de l'expérimentation éducative?
Je ne vais pas dire ça, mais disons que ça a été en tout cas une initiative originale qui a été prise il y a une vingtaine d'années. Ce n'est pas le mot avant-garde que je dirais. Ce qui est original, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeune. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le programme. Il n'y a pas de programme comme il en existe. Et tant mieux, et c'est très bien, à l'éducation nationale. On n'est pas sur ce registre. Notre vocation n'est pas de faire rattraper un retard d'acquisition de connaissances qu'on a loupé en travaillant pas à l'école. Notre objectif, c'est d'insérer. Et donc, pour insérer, eh bien, il faut qu'on donne les ingrédients qu'on considère comme étant le minimum syndical pour qu'un jeune puisse se remettre sur une voie, qu'un déclic s'opère chez lui, qu'une mise en confiance et qu'une entreprise veuille bien et accepte de le prendre. C'est ça qui nous intéresse. C'est la remise dans le circuit. Donc, ce que je disais tout à l'heure, notre objectif n'est pas d'apprendre le français. Notre objectif, c'est pas d'enseigner le français, c'est d'apprendre à communiquer à l'oral ou à l'écrit. Ce qu'il faut pour être dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours. C'est pas d'apprendre les maths. Tant pis, on a loupé des choses, mais c'est pas grave. En revanche, calculer, savoir faire une division, comprendre les proportions, savoir mesurer, ça c'est des choses qui sont fondamentales. Connaître un prix de revient, ça c'est des choses qui vont aider à la vie active. Donc on est sur une logique d'approche par compétence, dont on pense qu'elle est la clé pour qu'effectivement on puisse rapidement, puisque un parcours ici, ça peut aller de 2 mois à 1 an. Oui, c'est pas 5 ans, hein. Et donc il faut que dans un temps relativement court, on ait suffisamment donné une forme d'appétence, un intérêt et des bases suffisantes pour se réinsérer.
Et comment on intègre cette école ?
On est orienté, on a des organismes, je pense à la mission locale à Pôle emploi particulièrement, qui nous orientent ces jeunes-là, puisque c'est leur rôle, hein, très, mais c'est aussi des connaissances, des relations, les CIQ. Quiconque souhaite adhérer, qui se trouve dans la population que je viens de dire, et dans la situation de, pas de détresse, mais de dire je ne sais pas quoi faire, sont éligibles à rentrer à l'école. Nos stagiaires sont des stagiaires de la formation professionnelle. À ce titre, ils perçoivent une indemnisation. Il n'y a pas de sélection à l'entrée. Hein. Et c'est possible tous les 15 jours.
Bonjour, je m'appelle Manuela Santiago. Et qu'est-ce que vous faites ici à l'école de la deuxième chance ?
Ben là, je suis en stage de cuisine serveuse.
Et là, vous servez du coup pour le petit pot pendant les journées de la porte ouverte ?
Exactement, oui, c'est ça.
Parce que c'était un projet que vous aviez depuis longtemps de faire de la restauration ?
Pas vraiment, mais j'ai vu comment ça roulait et ça m'a plu, du coup, voilà.
Alors, le projet, c'est d'être vraiment présent là où il y a un besoin. On s'adresse quand même à des jeunes qui, pour la plupart, ne sont pas très mobiles. Donc, l'idée, c'est d'être au plus près de chez eux. On a le site principal qui est situé vers la place Saint-Louis, sur le nord de Marseille. Et on a aussi un site qui est côté sud-est, boulevard Romain Rolland. Il y a aussi 2 antennes. Donc, une antenne qui est centre-nord rue Montaulieu et aussi une antenne à Miramas.
Un emballage artisanal et écolo.
Connu sous le nom anglais de BeeWrap, l'emballé est un emballage alimentaire réutilisable fait en France. Fabriqué en tissu imprégné de cire d'abeille et de résine de pin, il remplace avantageusement l'aluminium et le film alimentaire plastique dans la cuisine. C'est une solution 100% écologique, esthétique et zéro déchet pour conserver presque tout ce qui se mange. Depuis son atelier de fabrication à Saint-Étienne-les-Orgues dans le 04, où Mathieu Marc l'a rencontré, Nathalie présente ses emballés.
Comment vous est venue l'idée de concevoir des emballés ?
Alors j'en ai d'abord fait pour moi, avec des chouettes tissus colorés, et ça m'a beaucoup plu. En ouvrant mon frigo, je trouvais que c'était agréable de les voir et très pratique à l'usage. Du coup, je cherchais à ce moment-là une bonne idée à mettre en œuvre pour changer d'activité. J'ai fait des essais. J'ai fait des calculs et j'en suis arrivée à la conclusion que ça pouvait bien tourner. Donc je me suis lancée en parallèle d'un travail à mi-temps. Finalement, j'ai pu lâcher cet emploi-là et m'y consacrer à 100%.
On parle aussi de cette traduction BeeWrap parce que ça vient de l'autre côté de l'Atlantique, j'imagine.
Bah, de ce que j'ai compris, c'est à différents endroits aux États-Unis, au Canada, que ça s'est développé pour commencer. À l'époque où j'ai démarré, il y avait beaucoup de recettes pour les faire soi-même sur Internet avec des procédés très artisanaux, au fer à repasser, au four, etc. Et c'est comme ça que j'ai fait les premiers. Après, c'est pas comme ça que je les fais aujourd'hui.
Alors, comment vous les faites aujourd'hui, sans qu'on rentre dans les détails du processus de fabrication en tant que tel, mais peut-être quelques pistes ou en tout cas quelques matériaux qui sont utilisés pour ces emballés?
Alors, j'utilise du tissu en coton uniquement. Je lave tout mon tissu, je le repasse, je le coupe à la dimension finale des emballés. Et ensuite, je l'en cire, c'est-à-dire je l'imprègne avec un mélange de cire d'abeille, de résine de pin et d'huile d'olive. Et ensuite, je le fais sécher, je le plie et puis je mets en kit différents motifs pour que vous ayez plein de couleurs pour emballer vos produits.
Cet emballage remplace à la fois l'aluminium et le film alimentaire. C'est donc aussi dans une démarche, pourrait-on dire, éthique, en tout cas en rapport avec l'écologie.
Ah, mais c'est pleinement ça. Une de mes motivations, c'est de voir que on a beaucoup d'incitation pour changer nos habitudes. Souvent, on n'a pas forcément les solutions qui vont avec l'incitation. Alors, on doit réduire nos déchets, on doit faire ci, on doit faire ça, ok. Et on fait comment? Il faut des outils aussi pour pouvoir le faire. Il faut des outils qui soient sympathiques, entre guillemets, à utiliser, qui soient mieux, des fois, que ce qu'on utilisait avant. Je pense que c'est aussi l'intérêt des emballés, c'est qu'ils apportent une vraie solution à un vrai problème, qui est de conserver les aliments, parce que c'est aussi un enjeu, de pas gâcher. Ils permettent de le faire sans remplir nos poubelles. C'est ça le fond de l'idée, c'est vraiment ça. Et la vraie motivation pour moi, c'est de donner des outils aux gens pour changer avec le sourire et des produits qui sont chouettes.
Et vous êtes basé à Saint-Étienne-les-Orgues et davantage dans la région du 04, mais c'est aussi un concept, un produit qui existe, l'emballé, de manière assez globale, en France, en Europe.
Alors, depuis que je me suis installée il y a 3 ans, il y a beaucoup de monde qui s'est mis sur le créneau, notamment des industriels qui commencent à arriver un peu violemment sur notre marché, qui mettent en jeu nos petites structures artisanales, parce que je suis pas la seule à faire ça de manière artisanale. J'ai toujours fait le choix de rester dans le quart sud-est de la France et de pas vendre, même si j'avais des opportunités ailleurs, parce que ça me paraît vraiment logique d'utiliser du tissu que j'achète ici, de la cire qui vient du 04 et du Var, et puis de vendre en local, ça me paraît essentiel dans la pertinence éthique et écologique de ma petite entreprise. Je pense qu'il est toujours préférable d'avoir 15 petits patrons qu'un gros industriel. Et j'espère qu'on va pouvoir poursuivre avec ce modèle, enfin du moins que je vais réussir à m'aligner face à ces gros concurrents qui sont très présents sur le marché aujourd'hui.
J'imagine que défendre des circuits courts et locaux aujourd'hui, c'est pas forcément évident. S'il y a des industriels qui arrivent, c'est aussi parce que peut-être ça marche davantage, ce qui est à la fois une bonne nouvelle et en même temps une mauvaise.
C'est la popularité du produit aussi qui s'est accrue. Les gens connaissent maintenant quasiment tous ces produits, beaucoup les ont essayés. Et oui, forcément, ça passe pas à côté de l'œil d'un industriel, un produit qui fonctionne bien. Mais comme sur beaucoup d'autres produits, on peut faire de la pédagogie sur le local et puis modifier nos circuits de vente. Je vais beaucoup sur les marchés aussi pour aller convaincre ceux qui connaissent pas encore le produit, parce que c'est facile d'aller pêcher la clientèle des magasins bio, etc. Mais il y a encore toute une clientèle qui connaît pas le produit, donc moi je vais sur le marché, j'explique.
Alors justement, sur quel marché peut-on vous trouver ou sur quel magasin davantage ouvert que des marchés ponctuels?
Je suis disponible à la Maison de Pays de Man, à la Halle Paysanne à Fort-Calquier, au Grain et à Mesure à Manosque, Marcel et Fils à Manosque et dans pas mal d'autres Marcel et Fils dans la région PACA et au Stani. Je suis aussi du coup pour les marchés, je travaille que l'automne et l'hiver. Et donc à partir du mois d'octobre, je recommence les marchés, je vais aller au marché de Fort-Calquier et puis j'espère dans d'autres gros marchés en étant présent une fois par mois sur chaque marché. Alors je n'ai pas encore la liste définitive, mais vous trouvez tout sur mon site. Dès que j'en sais plus, je mets à jour ces infos-là.
C'était ma prochaine question. Quel est votre site internet?
Alors ça, c'est certainement le marché le plus pérenne que vous pourrez trouver. Si vous voulez faire du vrai en direct, vous pouvez commander vos produits ou en apprendre plus sur le concept des emballés et qui nous sommes sur l-emballe.fr.
René Frény, Richard Galliano, accordéon sur Chemin Noir.
En 1988, un jeune écrivain résident à Manosque publie son premier roman, Les Chemins Noirs. Inconnu des lettrés, René Frény obtient l'année suivante le prix du roman populiste. Sa carrière était lancée. Depuis, plus d'une vingtaine d'ouvrages et de nombreux écrits ont ponctué la vie de ce romancier de l'âme souvent noire et de la nature toujours verte. Il est une valeur sûre des éditions Gallimard. Richard Galliano, lui, a fait vibrer son accordéon auprès des plus grands. Nougaro, bien sûr, mais aussi Barbara, Reggiani, Ron Carter, Chet Baker, Eddie Lewis et tant d'autres. Le musicien réputé étant un adepte des rencontres et des mots presque autant que des notes, sa cooptation avec René Frény était inévitable. Elle fut sublime. Car l'accordéoniste a composé un oratorio en s'inspirant des textes noirs, puis Alain Joutard est venu poser les voix de ses choristes sur le livret de Francine Couturier, des poèmes naturellement adaptés du roman. La suite, c'est un spectacle produit par la scène musicale où la musique et les mots sont en symbiose. Le public manosquin a pu juger sur pièce lors d'une soirée au théâtre Jean le Bleu, avec sur scène un improbable et surprenant René Frény évoquant sa première rencontre avec Richard Galliano, puis la complicité artistique pour célébrer un roman noir puissant et marquant pour l'écrivain. Et devant ses proches, famille et amis, Frény n'a pas flanché. Au contraire, il était poussé et entraîné par le public presque autant que par ses talentueux complices d'un soir, bien plus rompus, eux, à l'exercice scénique que lui. Bravo René. Richard et René m'ont accordé un entretien croisé à l'issue du spectacle. Nous évoquons Giono avec l'un et Piazzolla avec l'autre. René Frény, comment on se sent après être descendu de scène après ces chemins noirs avec Richard Galliano?
C'est un tel bonheur parce qu'on a joué ça déjà à Paris, à la grande scène musicale. On a joué ça dans une très belle cathédrale à Antibes. On l'a joué. Mais ce soir, j'avais le cœur plus accéléré qu'ailleurs parce qu'il y avait ma fille, il y avait ma famille, il y avait mes amis. Et là, tu as peur de te rater, tu vois. Ailleurs, quand tu connais pas les gens, tu te dis, bon, même s'il y a un couac. Bon, alors bien sûr qu'il y a un cœur formidable, il y a Richard qui n'a jamais fait de fausses notes. J'étais tranquille. Mais j'étais pas tranquille parce que moi, j'étais là. Je suis pas un professionnel. Donc, je suis un mauvais lecteur à haute voix et j'avais le cœur parce qu'il y avait ma famille. Quand tu es à l'étranger, tu t'en fous un peu, hein, tu sais que tu reviendras plus. Un faux pas, c'est pas très grave. Donc ce soir, pour la première fois, j'avais le trac.
Comment est-ce qu'on transforme un roman, Les Chemins Noirs, en poésie et en poème qui est chanté comme ça?
Ben, c'est-à-dire que moi j'avais écrit Les Chemins Noirs il y a plus de 30 ans comme un roman noir poétique. J'avais écrit ce roman, qui est un roman picaresque, un roman d'aventure, comme un roman noir, mais j'avais mis beaucoup de poésie, beaucoup de paysages, de rencontres, de tendresse, d'émotion. Voilà, la poésie, c'est que de l'émotion. Il y était déjà dans le texte. Mais ce soir, je me suis fait aider, bien sûr, de quelqu'un pour écrire le livret. Et puis, j'ai fait confiance à la musique. Moi, je me repose entièrement sur l'accordéon. Le texte, il est ce qu'il est. Enfin, le grand socle de l'oratorio, c'est la musique, c'est l'accordéon de Richard. Le texte est pas mal. Le texte, c'est quand même l'histoire des chemins noirs. Mais c'est avant tout, s'il n'y avait pas Richard, il n'y aurait pas d'oratorio.
Les Chemins Noirs, c'est un roman fondateur, clé de René Frény.
Ben, c'est ma vie, on peut dire fondateur, parce que c'est vraiment mes débuts d'homme. Je suis arrivé dans cette caserne avec beaucoup de retard. J'ai fait 6 mois de prison. Et la prison, c'est toujours fondateur pour un homme, en ce sens que tu es face à toi-même pendant des mois. Tu es face à un mur. Et sans ce mur, j'aurais jamais découvert la page d'écriture, la page de lecture. C'est pour m'évader que j'ai lu. Mais moi, à Marseille, j'avais pas besoin de lire. Hein. Il y avait le football, il y avait les filles, il y avait la plage, il y avait tout. On dansait dans les boîtes de nuit, il y avait la vie. Jusqu'à 19 ans, j'ai adoré la vie et je n'avais pas besoin de lire. Mais quand tu es dans une cellule, face à un mur, la vie te sauve de tout. La lecture. Et donc, je me suis évadé pendant 6 mois. Et depuis toute une vie, je continue à aimer le football, les filles, la plage, mais je lis. La moitié de ma vie se passe à lire, donc à m'évader.
Et ça a démarré avec Jean Giono et Colline. Et ici, ce soir, c'est au théâtre Jean le Bleu, à Manosque aussi. C'est une belle boucle.
Et c'était mon premier livre, Colline. C'est comme ça que j'ai pris goût à la lecture. Quand tu lis un livre de Jeunot, surtout les premiers qui sont très simples, eh bien tu prends le goût inévitablement à la lecture. Ensuite, j'ai lu des milliers de livres. J'ai découvert Dostoïevski, j'ai découvert Flaubert, Céline, Camus. J'ai découvert, oui, tous les grands écrivains du siècle et des siècles passés. Mais c'est Jeunot qui m'a mis le pied à l'étrier. Ça a été mon premier livre.
À vos côtés, le complice d'une soirée, Richard Galliano, immense accordéoniste. Comment ça s'est passé, cette complicité, justement, avec René Frény?
En fait, on a une sensibilité très, très proche, disons, des valeurs aussi qu'on partage, des émotions. Moi, lorsque j'ai lu les romans de René, j'ai trouvé que c'était très facile, hein, ça me parlait... tout de suite, et puis il a une dramaturgie, il y a un suspense dans ses livres, ça j'ai beaucoup, parce que moi je lis par intermittence des fois, mais là j'ai dévoré ses livres, j'ai pas lu que ce roman, Les Chemins Noirs, j'en ai lu plein d'autres aussi, et chaque fois c'est un bonheur. D'ailleurs, je vais me remettre un peu à lire, parce que ça apporte tellement de comment dire, repos de l'esprit, on s'évade. C'est vrai que moi, des fois, je suis un peu prisonnier de la musique, quoi. Je me culpabilise si je joue pas ou si ça avance pas. Et dans la lecture, et là notamment, ça m'a un peu débloqué, quoi, parce que l'idée de faire cet oratorio, alors il y avait des compositions déjà préexistantes que j'ai retouchées, mais comme je vous disais, comme je sens on a la même sensibilité, c'est la même histoire que j'écoute René raconter sa vie, ses histoires, ou que je joue mes mélodies, c'est pour moi c'est la même chose, quoi. Ça a vécu les mêmes émotions, les mêmes couleurs, les mêmes sentiments, quoi.
Alors, vous avez vécu un moment particulier ici avec Frény, mais vous en avez vécu énormément de moments particuliers avec Reggiani, Nougaro, oui. Piazzolla, Barbara, etc. Malheureusement, beaucoup ne sont plus là. Oui, avec qui, en ce moment, vous travaillez? Avec qui vous jouez? Quelqu'un de vivant, si possible?
Ah, oui. En ce moment, je travaille avec moi, surtout. C'est vrai que je fais la plupart de des formations. Ce sont des formations que je dirige. Demain, je joue à Nîmes avec un trio, guitare, basse. J'ai joué en Italie à Ferrara avec un quintet des Italiens de Aquila. Voilà, c'est surtout ces projets-là. Et il y a un projet aussi en route pour l'été prochain avec un musicien... un magnifique musicien brésilien qui s'appelle Egberto Gismonti. On s'est rencontrés mais il y a 40 ans à Paris avec Egberto. Là, c'est comme avec René, je sens à travers ses compositions qu'on a la même sensibilité, qu'on vivre par rapport aux mêmes choses, quoi. Et donc, mais il y a toujours... c'est ça que René parlait de trac, mais on n'est jamais sûr. Moi, par exemple, mon trac, c'est d'être très fatigué avant de jouer. Maintenant, ça va très bien. Hein. Après le concert, je suis très très détendu, très 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 bien, quoi. Mais avant, oui, il y a cette forme de trac qui ça dépend. C'est bon signe d'avoir le trac. Hein. Mais après, vous voyez, le concert ce soir, j'ai l'impression qu'il a duré quelques minutes. Ça, c'est bon signe. Il n'y a pas eu un moment où il n'y a pas eu des longueurs, des endroits, des moments où je me suis ennuyé ou qu'on attendait. Le public, c'est pareil, je crois. Donc, voilà, c'est allé assez vite, quoi. C'est allé...
Et puis, à la fin du concert, vous avez fait plusieurs rappels, évidemment. Vie violence, on a vu Nougaro sur scène avec vous. Vous avez les yeux fixés au ciel, évidemment, comme tout le monde. Et puis, Oblivion aussi. On va célébrer le centenaire de la naissance d'Astor Piazzolla. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Voilà, c'était cette année, c'était en 21, donc il aurait eu 100 ans. C'était une personne qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup conseillé. C'était vraiment un ami, un exemple, un très bel exemple pour moi. Mais j'ai pas attendu le centenaire pour lui rendre hommage. Il y a une vingtaine d'années déjà, j'avais monté une formation qui s'appelait Piazzolla Forever. Et on a fait plus de 300-350 concerts de partout sur la planète. Et justement, au mois de novembre, le 19 novembre, BMG ressort un enregistrement inédit qu'on avait fait enregistrer au Bouffe du Nord à Paris. Et c'est vraiment un très beau concert parce que c'était au bout de, je vous dis, 300 concerts, quoi. Alors, là, la formation était vraiment... D'ailleurs, après ça, elle a éclaté. C'était l'apogée de cette... Et c'est bien qu'on a enregistré ça. Et ça, je pense que ça va être un bel hommage à Astor. Voilà, c'est... voilà.
C'est la fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine, François, pour un nouveau Force 7.
Sans problème. Merci, Olivier. À bientôt.